belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, c'est une vraie belle rencontre. Mmh. Un coup de fil pour me proposer de suivre un événement sur l'astrologie au Gazette Café. Un premier échange téléphonique et le courant qui passe. Les hasards de la vie qui nous font nous retrouver au Festival du Livre de Paris et une complicité immédiate, une sororité. Bref, une vraie belle rencontre que je vous propose aujourd'hui sur Radio FM Plus avec Angélique. Bonjour Angélique.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Nathalie.
Angélique, on a fait le choix de ne pas te dire votre nom. On vous appelle par votre prénom d'une façon
courante. Alors, c'est mon nom de scène, mais j'ai rien à cacher. Donc, mon nom d'épouse, c'est Joss.
Donc, et, bonjour Angélique Joss.
Et mon nom de jeune fille, c'est Mentionne.
Angélique, question d'usage dans cette émission qui s'appelle donc Une belle rencontre. C'est quoi pour vous faire une belle rencontre ?
Faire une belle rencontre, c'est rencontrer quelqu'un dans l'essence de ce qu'il est, c'est-à-dire en dehors de tout schéma social, en dehors de toute interprétation, attente d'avantage quelconque. C'est on rencontre l'autre et d'un seul coup, il se passe quelque chose où on a une affinité, on a des points communs. On va dire c'est une rencontre d'âme pour moi, une belle rencontre qui va enrichir aussi bien l'un que l'autre, donner envie de partager et d'avancer ensemble dans des aventures qui soient un peu fun. Et puis, c'est la joie de la vie. Voilà.
Bah, c'est une belle définition. Je crois que je vais faire une émission avec Yann. On enregistre ensemble tous les mercredis. Yann qui nous accompagne aujourd'hui à la technique. Bonjour Yann.
Bonjour Yann.
Et à chaque fois, c'est la même question. À la fin, on prendra... c'est un as de la technique. Hein. Donc, il va m'extraire toutes les définitions, tu sais, c'est la première question que je pose, Yann, aux gens. C'est quoi pour vous une belle rencontre ? Donc, on fera une collection des belles définitions. La vôtre est très belle, Angélique.
Merci beaucoup, Nathalie.
On va parler d'abord un peu de vous. Mm-hmm. Et d'abord d'une formation qui est bien loin de l'astrologie. Hein, diplômée de l'école du Louvre, titulaire d'un bac musique, donc quand même un goût pour l'art.
Oui.
Vous avez eu plusieurs vies professionnelles, dont celle de responsable RH, et puis journaliste, animatrice sur une radio FM.
Absolument.
Donc voilà, on est un peu consoeur. Vous nous en dites plus, parce que vous continuez la radio, c'est pas fini.
Absolument. Alors, pour l'instant, je fais l'horoscope sur IDFM Radio, mais pendant 13 ans, j'ai animé l'émission Étincelle, parce qu'on a tous une petite étincelle en nous qui donne le modèle de ce que nous pouvons réussir. Et surtout, mon goût de la radio, il est arrivé complètement par hasard, parce que je m'intéressais au jury des lecteurs, et je me disais, mais est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est vrai ? Et je me suis dit, bah, dans le doute, je vais postuler et je saurai bien. Et à l'époque, j'ai postulé pour le jury des lectrices de Elle, où j'ai été choisie, je ne sais pas pourquoi. Et donc, à l'époque, on lisait 3 romans, 3 documents, donc je m'appliquais toutes les semaines, j'achetais Elle pour voir si j'étais publiée. Je faisais beaucoup d'efforts et puis j'ai jamais été publiée. Mais un jour, je rentre chez moi. C'était l'époque des gros répondeurs. J'écoute et à l'époque, je travaillais à François, j'en ai de la pub. Et je rentre et j'entends les gens d'Europe 1 vous cherchent partout. Et là, je me dis, j'ai raté une marche. Les gens d'Europe 1, mais pourquoi Europe 1 ? Je suis qui, moi ? Et en fait, ils avaient tellement aimé mes textes qu'en fait, ils m'ont demandé de passer en direct à la radio. Et je suis passée avec Jean-Pierre Elkabbach. Première émission de radio Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, et ça a été un coup de foudre extraordinaire.
Oui, parce qu'il faut rappeler, enfin, je m'en souviens assez bien, mais les premiers jurys, c'était enfin, on sortait du Goncourt, du Renaudot, c'était enfin un jury public.
Oui.
Et par contre, si je me souviens bien, vous allez peut-être me le confirmer, l'analyse qu'on demandait au jury, justement aux lectrices, c'était pas « ouais, le bouquin, il est bon, vous devriez le prendre ».
C'était très pointu.
C'était très pointu, oui. C'était argumenté et c'était écrit.
On avait 3 romans, 3 documents par mois. Donc c'est énorme.
Et le livre qui a été choisi, c'est celui qui vous avait Alors, oui, parlé j'avais... aussi
J'avais pris le plus fun, il y avait un documentaire et on m'a dit « vous voulez parler duquel ?» Et j'ai dit « Juliette ». C'était Juliette Pomerleau et c'était un auteur canadien, je me rappelle.
Et ce goût de la littérature, vous l'avez toujours eu ?
Alors, je sais que j'ai toujours beaucoup lu. Ma mère m'amenait beaucoup à la bibliothèque et c'était un peu, maintenant, on regarderait Netflix, on regarderait les séries, on a les colonies de vacances, etc. Mais c'était ma bulle. Et alors, j'avais une imagination débordante et ça correspondait parfaitement à mon état d'esprit. Et donc, je lisais à peu près un livre par semaine à l'époque, quand j'étais petite.
D'ailleurs, on s'est rencontrés au Salon du Livre. Ça a vraiment été très amusant, cette rencontre, parce que voilà, c'est quelqu'un... Enfin, il y a 15 jours, on ne se connaissait pas, et puis on s'est parlé, et puis on s'est rencontrés, et avec le même goût, toutes les deux, pour les livres. Hein. On s'est croisés Absolument. Après dans les rayons. Moi, je devais un peu partir, mais voilà, sur quelques stands amusants, donc, notamment celui de Guillaume Meurice. Voilà, oui. c'est des bons moments, quand même, ce Salon du Livre. Et on vous sent très à l'aise avec les auteurs. Vous aimez aller à la rencontre des auteurs.
J'aime aller à la rencontre des gens, des auteurs, parce que un livre, c'est quand même le fruit d'une vie, d'une réflexion, même si c'est la personne va écrire plusieurs livres. Je pense notamment à Amélie Nothomb, qui a toujours des propos qui sont extraordinairement pertinents et qui ouvrent un univers à chaque fois différent. Donc, ce qui est incroyable avec l'écriture, c'est que on peut faire tout ce que l'on veut. On peut partir sur Mars, on peut partir au centre de la Terre, on peut vivre des aventures fabuleuses, rencontrer des êtres imaginaires et on peut tout vivre.
Il n'y a que le manque d'imagination qui nous arrête.
Voilà.
Et puis on va parler de ce qui nous attend et ce qui nous réunit aujourd'hui. Si vous êtes maintenant astrologue depuis 30 ans,
oui.
En quelques mots, vous pouvez nous dire les facteurs qui vous ont amené justement à devenir astrologue. Parce que bon, on a parlé du début, hein, voilà, oui. de RH, de tout ça, c'est très loin de l'astrologie, on va dire.
Oui, c'est vrai. On va dire, pour faire simple, je remontais le moral de mes copines quand j'étais au lycée et j'ai fini par en faire mon métier, si on va par là. Donc on fait toujours le métier de ce que l'on est en fait profondément, malgré les études qu'on puisse faire. Et pour répondre à votre question, un jour, j'ai eu un chagrin d'amour, comme tout le monde. Et j'étais en train de pleurer, j'étais vraiment l'espoir même, enfin j'étais dans le désespoir le plus total. Et mon frère que j'avais au téléphone, il me dit « Ah, les scorpions !» Et moi j'étais là, bouh. Et puis 3 jours après, je reçois 2 bouquins, Connaissez-vous par votre signe astral et l'ABC de l'astrologie. Donc je regarde ça, je me dis, mais même moi, je ne crois pas aux horoscopes, c'est quoi ce truc? Donc je mets l'ABC de l'astrologie de côté en disant c'est trop compliqué. Et puis après, c'est devenu mon livre de chevet et Connaissez-vous par votre signe astral. Et je commence à lire évidemment ce qui se passe chez les scorpions. Et je commence à rire. Et ça m'aide à faire mon deuil. Et après, je lis mon signe. Je suis du signe de la Vierge. Et après, je dévore tout le bouquin. Et je me dis, mais c'est tellement juste. Et peu de temps après, j'avais écrit un article sur Fin de siècle qui s'appelait « Et si la mort n'existait pas ?». C'était une revue qui était donnée pour les SDF. Et en sortant de Fin de siècle, je rencontre une petite dame dans le métro. Je trouvais qu'elle était vieille, mais en fait, elle n'était pas si vieille que ça. Elle s'appelait Huguette Comte Roy de Puyfontaine. Et c'était une ancienne femme, une des premières femmes militaires. Et j'ai su des années après qu'elle était chevalier de la Légion d'honneur. Et j'ai rencontré dans le métro. On a sympathisé. Et je lui dis, écoutez, on se rend compte, c'est un signe, on peut échanger nos coordonnées. Elle fait, ah, c'est un signe. Bon, bah, d'accord, on échange nos coordonnées. Elle était aussi farfelue que moi. Et donc, on échange nos coordonnées. Je pose son téléphone dans un coin et une semaine après, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, je vais vous faire votre thème. Je dis, vous savez, moi, je suis au chômage. Bon, enfin, bref. Et donc, je fais le thème et elle me fait le thème. Je regarde, c'est hyper intéressant. Forcément, quand on vous parle de vous, ça devient automatiquement intéressant. Et elle me dit, vous êtes douée, je vais vous l'apprendre. Et je dis, mais vous savez, je suis au chômage. Elle me dit, c'est pas grave. Et toutes les semaines, j'allais la voir. Donc, je offrais des fleurs, des fruits, enfin, tout ce qui me tombait sous la main. Et elle m'a accompagnée pendant quelques années, au tout début. Et c'était ma meilleure amie. Elle avait 72 ans à l'époque. Et donc, pendant quelques années, elle m'a accompagnée. Et c'était ma pote. On se tapait des fous rires comme si on avait 15 ans. Comme quoi, l'âge n'a vraiment bien aucune sûr, importance au bout d'un moment. Et comme ça, petit à petit, elle m'a expliqué comment j'allais retrouver un travail. Donc, j'ai étudié les transits planétaires, les passages des planètes. C'est calculé par la NASA, donc dans les éphémérides. Je regardais quand j'allais retrouver un boulot. Je regardais comment j'allais me sortir de tels problèmes. Comment, quand je rencontrais un petit copain, je faisais les comparaisons de thèmes, ce qu'on appelle la synastrie. Alors là, sur ce coup-là...
Ah, c'est ça, la synastrie, je l'ai vue dans le livre.
Je suis
au connaissais pas ce mot.
Point. La synastrie, c'est on regarde dans le thème de chacun et il y a un protocole. Et donc, d'ailleurs, dans le livre, j'ai utilisé le couple, comment il s'appelle, Frank Sinatra et Ava Gardner. Et j'ai montré comment on fait point par point, protocolairement, pour que tout le monde puisse le faire. Soit on le fait par son logiciel d'astrologie, soit on le calcule par soi-même, ce qui est hyper simple. Et à partir de là, on va avoir toute une grande richesse d'informations. Et surtout, on voit si on est compatible ou pas. Et donc forcément, je suis devenue très très calée, très vite.
À cause d'un scorpion et d'une vierge.
Exactement.
Alors vous savez que moi je suis vierge.
Oui.
Et que mon mari est scorpion.
Mais c'est des signes qui s'entendent bien. Après, il faut voir où ça se situe dans le thème.
Bien sûr. Il ne faut pas que ça soit un filtre, mais bon, je pense qu'on a tous trouvé un moment ou un autre
Des affinités.
Oui, des affinités. Et puis, dans les signes, moi j'ai deux très bonnes copines qui sont poissons, elles sont insaisissables. Hein, donc voilà, je ne sais pas
Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'attrape pas un poisson. C'est comme une savonnette mouillée.
Exactement.
Par contre, c'est le poisson qui vous attrape.
Voilà.
Moi, mon mari était poisson.
Mais j'ai mis des fois des années, des dizaines d'années à attraper un poisson qui a fini par m'attraper. c'est amusant parce que c'est une chose qui a tout de suite été évidente quand on a parlé au téléphone, puis quand on s'est rencontrés à Paris. C'est la légèreté avec laquelle vous abordez ça. C'est-à-dire que jamais vous n'êtes docte, jamais vous faites de prosélytisme. Ça, c'est très agréable.
Non, parce que d'abord, chacun est libre. En plus, il y en a qui mettent l'astrologie dans de la croyance. Moi, je dis, c'est de la pratique, c'est comme une langue. Il faut voir que quand j'ai fait l'école du Louvre, j'ai fait aussi la Sorbonne et j'ai fait les hiéroglyphes, puisque j'ai fait de l'art égyptien. Et moi, à partir du moment où il y a des trucs un peu bizarres dedans, hiéroglyphes, j'ai eu une super note. J'ai fait du piano, donc j'ai fait du solfège. Donc là, on a des croches, on a vraiment tout un langage qui est musical. Hein, donc c'est encore bizarre. Et là, maintenant, on a les glyphes en astrologie. Dès que c'est un petit peu bizarre, ça me va très bien.
Ça, je sens. Ça, c'est votre côté artiste. Vous êtes aussi médium de naissance.
Oui.
Et ça, vous l'avez compris à travers deux expériences. Hein, très jeune, vous avez 13 ans. Une à 35 ans. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus et comment la révélation d'être médium... Ça se vit, parce que c'est quand même aussi un bouleversement. Est-ce qu'on se sent pleine d'un pouvoir
ou non,
est-ce que
ça... voilà. Pas du tout. Parce qu'on doute toujours. D'abord, quand on est petit, on pense que tout le monde est comme nous. Donc, on apprend très vite, déjà à l'école, qu'il y a des matheux, il y a des littéraires et il y a des médiums. Voilà. Et donc, quand on est médium, on va capter une autre réalité que les autres vont... pas forcément percevoir, mais par exemple, un artiste qui chante sur scène va vous transmettre une émotion, il est médium. Un peintre va vous transmettre sa vision du monde. Un médium, en fait, il va être un canal entre une autre réalité et celle-ci. Le plus difficile, c'est de rester bien ancré dans la réalité. Ça, c'est important d'avoir les pieds sur terre. Alors maintenant, pour répondre à votre question, ce qui a été le déclencheur, c'est le bac. Quand j'ai passé mon oral au bac, puisque j'ai un bac musique, on nous passait un morceau de musique et il fallait qu'on dise qui l'avait écrit, quel était le mouvement, quelle était l'époque, un peu l'histoire du morceau. Et autant dire que j'avais pas vraiment de culture, j'avais travaillé, mais pas tant que ça. Et donc quand le prof a mis le morceau de musique, j'avais l'esprit vide. Alors c'est ça, c'est quand on a l'esprit vide qu'on reçoit les informations. Par exemple, quand vous vous brossez les dents, vous avez l'esprit vide, c'est là où vous avez les idées les plus lumineuses. Et donc j'entends à ce moment-là dans ma tête, c'est la sonate pour piano et violon Kreutzer de Beethoven. Et j'avais que ça sous la main. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, foutu pour foutu. Je lui dis ça et il s'assoit, il reste scotché. Et j'ai parlé après dans un état second et j'ai raconté plein de choses dont je ne me rappelle absolument pas. Et je suis reparti avec un 17 sur 20, coefficient 3. Voilà.
Et ça vous a interpellé, interloqué.
Mais longtemps, je crois, pendant une dizaine d'années, j'ai pas su comment j'avais fait. Je me suis dit, mais comment j'ai fait? Et ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était la médiumnité qui avait fait ça.
On est nombreux à être médium sans le savoir?
Alors, on est tous médiums, et certains plus que d'autres. C'est comme il y en a qui sont musiciens, il y en a qui sont plus musiciens que d'autres. Tout le monde ne fait pas un opéra comme Mozart ou Lully, mais il y en a qui vont jouer, qui vont se faire plaisir. Enfin, il y a différents niveaux, tout le monde n'est pas écrivain, pourtant on sait tous écrire. C'est exactement la même chose. À l'âge de 13 ans, en fait, j'ai fait un songe, mon premier songe. Et à l'âge de 35 ans, j'ai de nouveau eu un autre songe qui était très spirituel. Et à partir de là, ça m'a amené dans un courant de bienveillance vraiment encore plus important, tourné vers les autres et je dirais même vers la spiritualité, d'où le titre de mon ouvrage.
C'est vrai que c'est important d'être tourné vers les autres. C'est très fort parce qu'avant de parler de votre livre, avant de parler de votre métier, avant de parler de vos passions, on a parlé de nous d'abord. Hein, voilà, c'est tout simple, mais ça fait beaucoup. Vous avez aussi choisi de devenir formatrice de magnétiseur d'astrologue. Bon, il y a eu toute une démarche RH dans vos jeunes années. C'est important, on le sent hein, quand même dans ce que vous dites, la transmission, le regard sur l'autre, la formation, ça entre dans cette idée-là justement de transmission, de regard vers l'autre, de faire grandir les autres, d'aider aussi.
C'est vraiment ça, c'est aider les autres à prendre leur place. Et c'est d'ailleurs comme ça que je faisais mon émission de radio. C'est croyez en vous. Et donc, quels sont les éléments que vous avez à votre disposition? Qu'est-ce qui est en vous votre jeu de cartes? Et comment vous allez pouvoir jouer au poker de la vie avec votre jeu de cartes à vous? Quelles sont les méthodes que vous allez utiliser? Et donc, il y a des méthodes que moi, j'ai apprises tout simplement. Et au bout d'un moment, on pratique. Et le secret de la maîtrise, c'est la pratique. Ce n'est que ça. Plus vous allez le faire, plus vous allez y arriver. C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez être médium, mais il se trouve que les éléments de la vie, souvent les vrais médiums sont secoués quand ils sont plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'inquiétude de ce qu'ils traversent, les épreuves, les doutes, ils vont sortir leurs antennes et à ce moment-là, ils vont devenir plus performants parce qu'ils ont cette capacité qui s'est développée. Parce que quand il y a, c'est comme quand vous allez faire du sport. Si vous voulez développer votre musculature, vous allez prendre des poids sur une machine et vous allez forcer. Et donc, vous allez développer votre musculature. C'est exactement la même chose pour la médiumnité.
Avant de marquer une première pause musicale que vous avez choisie pour nous, aujourd'hui, on enregistre, nous sommes le 17. Mm-hmm. Nos auditeurs vont écouter l'émission le 30, mardi 30. Vous êtes là pour présenter une conférence qui s'appelle « Devenir acteur de sa destinée grâce à l'astrologie ». C'est un exercice que vous aimez faire, ces conférences ?
Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça permet de rendre accessible un univers qui pourrait paraître compliqué, alors qu'en fait, il est simple et limpide, et que c'est une langue qui s'apprend, et on découvre beaucoup sur soi, donc c'est très amusant parce que après je parle de tous les signes, et chacun peut s'y retrouver, se projeter, retrouver son voisin, son frère, son copain, et se dire, mais oui, mais bien sûr, ça me paraît tellement évident. Alors après, c'est comment ces outils-là, vous allez vous en servir pour être heureux dans votre vie, parce que la vie, elle est courte. Elle est très courte, on s'en est rendu compte récemment avec le Covid. Et comment est-ce qu'on peut l'optimiser? Comment on peut réussir sa vie? Comment, avec nos atouts, nos qualités, on va s'appuyer dessus pour réussir notre vie et réussir les rêves qui sont en nous et qui sont bien indiqués dans la carte du ciel?
Eh bien, on va se retrouver juste après, donc, Soft Cell. Tainted Love.
Tainted Love. Ouais.
Grand titre des années 80.
Mais oui.
Hein, voilà. Et on va parler en deuxième partie d'émission du manuel d'astrologie spirituelle, voilà, pour aller un peu plus dans le fond du sujet. À tout de suite.
Share seems to go nowhere.
Ah, le son des années 80, Depeche Mode, Soft Cell, c'est bien, c'est bien. Puis c'est gai.
Oui, hein, c'est joyeux.
C'est plein d'énergie. Pour commencer à parler du livre, puisque entre autres, le livre est paru...
Le 8 novembre.
Voilà, c'est quand même quelque chose de très récent. Et quand on s'est rencontrés, bien sûr, à Paris, vous me l'avez gentiment offert. Et bon, c'est un livre très copieux, mais qui se lit par petits bouts. Mais par contre, la lecture n'en est pas rébarbative. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de... C'est une grosse somme. Donc le livre, c'est, je le dis, le manuel d'astrologie spirituelle, devenir acteur de sa destinée aux éditions...
Le Lotus.
Le Lotus et l'éléphant. Comment vous est venue, Angélique, l'idée, comment vous êtes lancée dans la rédaction de cette somme qui, elle, est astrologique et elle est astronomique aussi, hein, parce que...
Alors, comment c'est passé? En fait, je m'étais fait un petit pense-bête de 4 pages recto verso, des feuilles à 4, hein, tout simplement, où je me disais, voilà, quand j'interprète un thème, ce serait bien que je commence comme ça, comme ça, comme ça. Et je m'étais fait une petite liste en disant, comme ça, je n'oublie rien. J'ai regardé tous les paramètres et à chaque fois, je me levais de table, j'allais dans ma bibliothèque, je regardais le bouquin, je faisais une synthèse. Et... En même temps, en parallèle, je voyais les bouquins d'astrologie qui sortaient, qui étaient, pour certains, qui se copiaient mutuellement. Telle planète avec telle planète, ça nous donne ça. Et c'était soporifique. Et je me suis dit, mais ça rebute, je n'ai pas moi ce que je veux, l'essence. Et je me suis dit, mais si je faisais un petit pense-bête, au départ, je n'avais pas du tout l'intention de faire 455 pages, du tout. Je m'étais dit, je vais faire un petit manuel. Je me disais, je ne sais pas si je vais pouvoir faire 10 chapitres. Hein, déjà, j'en étais là. Et donc, je vais résumer mon petit pense-bête. Et surtout, je vais renvoyer à une bibliographie qui permettra à chacun de choisir la thématique qu'il souhaite approfondir. Et je vais donner tous les bouquins qui correspondent. Donc, comme ça... Tout le monde va y trouver son compte. C'était ça à la base. Et d'ailleurs, quand j'ai signé chez l'éditeur, hein, c'est quand même les éditions Hachette.
Hachette, oui.
C'est le groupe Hachette. Et donc, je devais tout faire 300 000 signes. J'en ai fait 700 000. L'éditrice a dû négocier 200 pages de plus par non, mais bouquin.
C'est vrai que c'était pas... À ce moment-là, une fois l'écriture du livre lancée, il fallait aller jusqu'au bout. Quoi.
Et je me suis dit, tant pis pour les signes. Ça, c'est là où je ne suis pas matheuse. Hein. Je suis astrologue, mais pas matheuse. Et je me suis dit, tant pis, j'écris ce que j'ai à dire. Et c'est hyper important parce que il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'astrologie. Donc, il y a des bases. Alors, pour celui qui n'y connaît rien, vous avez une approche qui est limpide avec des fiches synthétiques. Et si vous voulez aller développer, alors vous pouvez le garder en anti-sèche et puis ensuite prendre certains bouquins et approfondir si vous voulez. Il y a pour les astrologues confirmés un pense-bête, puisqu'à la base c'était mon pense-bête. Et ensuite pour les chercheurs, alors ça c'était pas du tout prévu, mais ceux qui vont aller travailler dans ce qui est ésotérique, spirituel, il y a aussi de quoi. Et ce qui est génial en fait, génial dans ma passion hein, pour l'astrologie.
Je vous laisse parler parce que vous êtes passionnée, moi c'est super, je suis scotchée, je vous écoute, passionnée aussi. Donc
dans un premier temps, à la limite, les premières fiches qu'on voit sur l'ABC, enfin sur un signe, il est comme ci, il est comme ça, machin, c'est ce que j'ai fait en dernier parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile. J'ai commencé par le plus compliqué, et le plus compliqué c'était en fait l'ésotérisme, et je suis allée, parce que j'étais enseignée par un maître de sagesse du Tao, qui s'appelait Kriyananda, Goswami Kriyananda, qui était un disciple de Yoga. Yogananda, lui-même un disciple de Sri Babaji. Et donc, d'ailleurs, il y a un chapitre entier sur toutes ces paroles de sagesse qu'il nous a distillées en cours, parce que ce sont des paroles qui sont pleines de sens. Et à un moment donné où le monde part en vrille, on cherche du sens pour nous dans nos vies, pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc, il y a une partie, en fait, où je vais expliquer les signes. Et pour qu'on comprenne les signes, j'ai pris la partie positive et la partie négative, avec des personnalités. Alors, il fallait que les gens ne soient pas vivants. Donc, je suis allée beaucoup dans les films, les personnages de films. Par exemple, si on prend le signe de la Vierge, c'est dans la partie positive, quelqu'un qui va être intuitif, mais c'est une intuition par déduction analytique. Qui c'est qui est comme ça? C'est Columbo. C'est Lara Croft. Et là, tout de suite, on a compris le caractère. Quand il y a quelque chose de négatif, ça va être, par exemple, celui qui va manipuler, ça va être Jafar. Jafar dans Aladdin, qui veut être, c'est comme Is No Good, hein, celui qui veut être vizir à la place
du... Oui, calife à la place du calife, ou vizir à la place du vizir.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pris des personnages comme ça. Donc, on comprend très vite, et comme c'est synthétique et que ça tient sur une page quasiment, du coup, on a l'essence et surtout, j'ai mis à chaque fois qu'il y a une planète ou un signe, je mets le symbole qui correspond. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher dans une table des matières, faire des allers-retours. Systématiquement, c'est sous les yeux, donc ça finit par rentrer. On s'imprègne de ça. Après, donc ça, c'est dans on a des petits modules, parce que moi, au début, je n'étais pas astrologue. Je n'y comprenais rien, moi, au bouquin d'astrologie. J'allais dans la librairie Astre à l'époque. Maintenant, elle n'existe plus. Et ça faisait rire le responsable, parce que je les prenais un peu au hasard, les bouquins. Je n'y comprenais rien. Je lisais, je ne comprenais rien. J'ai fait pareil après avec l'informatique. Et c'est comme ça que j'ai appris l'informatique. Et je me suis dit, ça va bien rentrer un jour. Et en fait, ce n'est pas faux. Et il y a, par exemple, un truc qui est assez drôle. Par exemple, les étoiles fixes. Est-ce que vous pensez que vous connaissez les étoiles fixes ?
Ah, pas du tout. Moi, je crois que la seule que je peux voir, c'est l'étoile du berger parce qu'elle brille plus fort que les autres.
Et elle l'étoile est fixe. Polaire. Non, elle est composée de cinq étoiles. Mais est-ce que vous avez vu Harry Potter ?
Je ne suis jamais rentrée trop dans l'univers d'Harry Potter.
Ah, vous devriez, ne serait-ce que lire le premier livre, il y a une idée par page, c'est super drôle.
Mais je sais par contre que justement, il y a presque une double lecture. Alors, Harry Potter, c'est une lecture roman pour ados, et puis une lecture très ésotérique, qui d'ailleurs, j'ai vu les films par contre, avec les filles.
Mais donc vous connaissez Sirius Black ?
Oui, bien sûr.
Et bien Sirius Black, c'est le nom d'une étoile fixe. Et toute la généalogie de Sirius Black, en fait, c'est le nom des étoiles fixes. Par exemple, vous avez Bellatrix Lestrange.
Oui.
Bellatrix, c'est un nom d'étoile fixe.
Elle n'est pas très sympa d'ailleurs.
Non, mais vous avez Andromeda Tonks, qui est la femme du loup-garou. Et Andromeda, eh bien, c'est une étoile
fixe.
Andromède,
oui.
Voilà. Donc, j'ai retrouvé, et ça, c'était vraiment des recherches, donc il y a des pépites dans ce livre. Je suis tellement contente de les avoir trouvées. Et il faut savoir qu'une étoile fixe, en fait, ça va très vite. Mais par rapport à la Terre, ça avance très lentement puisqu'elles sont très très loin. Donc nous, on a l'impression qu'elles mettent beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'elles mettent 1 degré tous les 72 ans. Donc on a 30 degrés par signe, vous imaginez le nombre d'années pour passer un signe. Ce qui fait que quand on prend la position d'une étoile fixe, et j'ai pris les plus récentes, et qu'on la positionne par rapport à notre thème, on va avoir une indication qui va nous donner une information et on va connaître un peu notre caractère. Il y a une autre chose aussi, quand on n'est pas astrologue, qui est vraiment sympa à faire, c'est sur la roue de 360 degrés, il y a des petites informations poétiques, un peu spirituelles, qui ont été développées par 5 ou 6 grands médiums depuis la nuit des temps. Et j'ai trouvé un site, vous rentrez vos coordonnées astrologiques, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu, et il va vous calculer toutes les phrases astrologiques faites par ces voyants astrologues et par rapport à votre thème. Et alors du coup, évidemment, je l'ai fait pour moi. La première chose que j'ai fait pour moi, à l'époque, ça n'existait pas, ces trucs avec Internet, donc j'avais le bouquin et je regardais. Et à un moment donné, je regarde un degré qui tombait sur mon Mercure. Mercure, c'est la planète qui régit le signe de la Vierge et le signe des Gémeaux. Et je vois degré de faux. Et alors, évidemment, je suis consternée. Je me dis, degré de folie, mais au secours. Et après, je ris parce que Mercure, c'est le jeune frère et mon frère est psychiatre. Et donc, il a travaillé aux urgences psychiatriques. Et donc, degré de folie, et ben, ça paraît hyper juste. Donc, après, tout va être dans l'interprétation. Soit vous le preniez au premier degré et ça peut être catastrophique, soit ça peut être super drôle quand on prend du recul. Par exemple, ma prof d'astro, c'était la grand-mère, c'était une grand-mère, et un jour elle se faisait beaucoup de soucis pour son petit-fils, parce qu'elle avait vu dans le thème de son petit-fils qu'un certain jour, Saturne était en très mauvais aspect. Et donc Saturne, elle a paniqué, toute la journée elle a fliqué, comment il va, est-ce qu'il va bien, et lui en fait il a passé une journée de rêve. Et à la fin de la journée, elle s'est rendue compte que Saturne c'est la grand-mère, et c'était elle qui s'était inquiétée toute la journée.
Vous parliez de votre frère tout à l'heure, qui est psy, et
Il est psychiatre à Pesance.
Psychiatre, voilà. Mmh. Et ça me fait revenir sur les deux préfaces qui ouvrent votre livre,
oui.
Donc, dont une est de Lionel Mancione. Il vous a toujours soutenu.
Oui, absolument. Oui.
Parce que bon, normalement, psychiatre, c'est assez rationnel, on va dire.
En fait, il est devenu psychiatre après m'avoir envoyé les livres. Au début, il était étudiant en médecine.
Et justement, quel regard, quand c'est votre frère, vous aimez beaucoup, vous êtes proche. Quels sont les échanges, d'ailleurs, on pourrait presque en faire un échange entre un psychiatre.
Mais on le fait, on est en train de se...
Et une astrologue.
Il a créé un groupe WhatsApp où il n'y a que nous deux, ouais. Où on s'envoie les perles de nos clients et on a l'intention de faire quelque chose avec tout ça.
Il y a de quoi faire. Et puis Bernard Fontaine.
Bernard Fontaine, c'est un homme qui est extrêmement cultivé. Moi, je dirais que c'est un historien de l'ésotérisme. Et il est, on va dire, conseil à la FNAC des Halles, au rayon ésotérisme. Et c'est lui qui a constitué cette énorme information au rayon ésotérique de la FNAC des Halles. Donc les livres, et il est astrologue lui-même, et les livres d'astrologie, il en connaît. Il a une compétence incroyable. Et quand je lui dis, écoute, voilà, moi, je veux faire ça. Et de temps en temps, il était chroniqueur avec moi à la radio, parce qu'il a une culture incroyable. Il a écrit un livre sur les Illuminati, notamment, et plein d'autres livres en collaboration. Et donc, il m'a dit, écoute, ton livre, il n'a jamais été fait encore. Mmh. Et je lui ai dit, mais ça me paraît essentiel que tout le monde sache qu'il y a à boire et à manger. Donc, en fait, il faut clarifier un petit peu tout ça. Il y a différents courants d'astrologie, il y a différentes manières d'envisager les choses. Il y a la manière la plus simple, il y a un protocole aussi d'interprétation pour pas se tromper, pour aller voir tous les angles de vue différents, qu'ils soient avec les pieds sur terre ou un petit peu plus ésotériques, pourquoi pas. Je me suis pas limitée. Et donc, il m'a dit, écoute, ça me plaît bien, cette façon de voir les choses. Et donc, il a lu la préface de mon frère. Et mon frère me connaissait bien, et dans la mesure où en plus je lui lisais certains passages, et on s'est tapé des barres de rire. Il faut bien dire qu'il y a des moments. D'ailleurs, j'ai une dame sur Facebook qui m'a dit : mais il est drôle en plus, votre livre.
Et puis ce qui est formidable, c'est que vous commencez à la rigueur en faisant table rase. C'est-à-dire que vous repartez sur les bases de l'astrologie.
Complètement.
C'est-à-dire que foin des idées de ceci, de cela. Voilà. Là, vous repartez sur le basico-basique des signes astrologiques. Donc, chaque signe est descendu un à un. On reprend vraiment pour chaque signe les versions négatives, entre parenthèses, parce qu'il n'y a rien de négatif, mais les analogies, les endroits, les expressions. Voilà. Tout ce qui tourne autour de chaque signe qui est descendu. Donc, c'est le plus long chapitre. Hein,
par exemple, quand vous perdez un objet, selon votre thème, vous allez regarder l'objet en question et la maison qui est un domaine de vie où il y a un package d'informations, hein, parce qu'il y a plusieurs aussi définitions pour le même symbole astrologique. Donc on va prendre l'objet en question, on voit à quel symbole astrologique il correspond et à quelle maison, et ensuite on va regarder dans le thème où ça se trouve, et à partir de là on sait que par exemple ça sera plutôt dans les greniers ou plutôt dans les endroits chauds, etc. Et on peut retrouver ses affaires comme ça uniquement regardant son thème avec ce mode d'emploi.
Les gens qui ont justement une lecture de l'astrologie, enfin quand on connaît tout ça, quand vous avez, bien sûr, il y a des choses que vous saviez, que vous avez mis en page, mais vous parliez de la bibliographie, je voulais y revenir à la fin de l'émission, mais avec cette bibliographie très copieuse que vous avez lue, que vous connaissez,
tout.
Les gens qui justement sont très légers avec l'astrologie, ça vous agace ou
Alors non,
je ne sais pas bien ce qui peut vous agacer, hein, mais bon.
Je pense qu'on a tous notre libre arbitre et il ne faut jamais forcer quelqu'un à rentrer dans une information qui ne lui convient pas ou il va être mal à l'aise. On a tous, c'est l'évolution de la vie, des événements qui nous font réfléchir et qui nous confortent. Et à partir de là, on va avoir des réponses. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir des réponses qui ne lui correspondent pas. Par exemple, mon père n'y croit pas du tout.
Mm-hmm.
Mais en même temps, il me soutient.
Mais est-ce qu'il faut y croire ou faut juste...
Il faut pratiquer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut déjà...
Il faut peut-être s'ouvrir un petit peu aussi, des fois, non, d'écouter. Il y a des choses troublantes, sans en faire, je vous dis, un filtre.
Et moi, je pars sur l'hypothèse. C'était ça, mon hypothèse de départ. Et si c'était vrai ? Et si jamais je croise un seul grain de sable sur cette route-là, je change de route. Et en fait... À ce jour, donc 30 ans plus tard, je n'ai pas de grain de sable.
Il faut voir quand même dans la presse, Angélique.
Oui.
C'est la première page qui est ouverte.
C'est vrai. C'est vrai, j'ai discuté avec un réalisateur, un metteur en scène réalisateur qui produit des films, des téléfilms qui passent sur toutes les grandes chaînes. Et il me disait que quand il était arrivé sur Paris, son petit truc à lui, c'était d'aller boire son petit comptoir au café. Très sympa d'aller boire son petit comptoir, son petit café au comptoir. Et donc là, il y a le Parisien. Donc ici, c'est le midi libre. Et donc, on ouvre les pages et... La première chose qu'on a sur la dernière page, par exemple, du Parisien, vous avez d'un côté toute la météo et de l'autre, vous avez tout l'horoscope. Et il me dit finalement, il y a une page entière qui est consacrée à la divination.
Et oui, il y a de ça dans la météo aussi. Hein.
Mais oui, voilà.
Et donc, on ne va pas pouvoir descendre chaque chapitre, on reviendra, on pourra faire une autre émission aussi en distanciel, puisque vous êtes parisienne, enfin, région parisienne. Donc là, on a parlé des bases de l'astrologie, mais vous abordez aussi l'interprétation astrologique, les domaines de l'astrologie.
Il y a différents... Alors, au niveau de l'interprétation, c'est simple. Hein. Il y a un petit protocole tout simple. C'est d'abord, est-ce que c'est le thème d'un homme ? Est-ce que c'est le thème d'une femme ? Première chose. Ensuite, on va aller voir le nombre de planètes qu'il y a dans des signes terre, air, feu, eau. Et on va toujours être attiré par ce qui nous manque le plus. Par exemple, si on a quelqu'un qui est très introverti, il va être attiré par les gens qui sont un petit peu extravertis. Et donc, on voit est-ce qu'ils sont conservateurs ou pas. Donc, on va regarder ce qu'on appelle les éléments, ensuite les qualités. Est-ce que ça va être cardinal, fixe ou mutable ? Ça veut dire, est-ce qu'il est cardinal ? Est-ce qu'il va être chef d'entreprise ? Est-ce qu'il va initier quelque chose ? Est-ce qu'il va être fixe ? C'est-à-dire, il va être conservateur ? Ou est-ce qu'il va mutable ? Être mutable, c'est-à-dire adaptable entre le fixe et le conservateur et essayer de trouver un équilibre. Donc, on va voir s'il est têtu ou s'il va être souple ou s'il va être adaptable. Un scorpion, il va être plutôt têtu. Un capricorne, c'est plutôt un signe intuitif. Donc, il va essayer de s'adapter. Mais, enfin... Alors attendez, donc Capricorne, il va initier, c'est aussi un chef d'entreprise, c'est la petite biquette qui monte toute seule en haut des sommets et qui est indépendante. Vous avez des gens qui vont être entre deux, hein, ça va être les poissons, hein, ils vont s'adapter à toutes les réalités, vous parlez à un poisson, il vous écoute et en même temps, il est complètement ailleurs. Donc, on a des informations comme ça.
Je crois qu'il va falloir qu'on se revoie, Angélique. Il nous reste 2 minutes. Alors, il y a des choses que, déjà, je voudrais dire. C'est toutes vos coordonnées. C'est pour ça que je préfère prendre le temps maintenant. Parce que, bon, vous êtes active sur les réseaux sociaux. Oui. Les différents sites Instagram, je vous laisse la parole pour nous dire tout ça.
Merci beaucoup. Alors, mon Instagram, c'est Angélique Astrologue Journaliste, en un seul mot. J'ai un TikTok, je crois que c'est Angélique Médium. Je ne suis pas très au point.
On les mettra en lien.
Ok. Alors, j'ai 2 pages Facebook. J'ai Angélique Médium, Angélique Astrologue. Et j'ai celle où on peut rigoler, c'est Sylvie Virginie Joss. Parce que c'est celle où on s'amuse. Où...
Et puis, moi, j'ai vu tout un site très, très bien fait. On peut aller dans des... Alors, vous me dites qu'il est en construction.
Il est en construction. Il est déjà pas mal travaillé, mais je suis en train de le peaufiner en ce moment. Donc, toute votre indulgence, c'est angélique.fr.
Ben, je mettrai tout ça sur la page. Et puis, je vous donne rendez-vous pour parler peut-être plus encore des points qu'on a juste abordés superficiellement cette fois-ci. Et on se quitte en musique, exceptionnellement, avec un titre que vous nous avez aussi proposé, Angélique, c'est...
Parler dans l'hygiophone.
Voilà, on se quitte avec téléphone. Merci beaucoup Angélique et à très bientôt sur nos ondes de Radio FM+. Et merci à Yann qui nous a enregistrés.
Merci Yann, merci Nathalie, merci à tous les auditeurs.
À bientôt pour une autre belle rencontre.